Eh bien, bonjour à tous. Je reçois aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Alain Escada, qui va nous parler, qui va jeter un éclairage, un coup de projecteur sur la ténébreuse affaire Epstein. Voilà le programme. Et comme d'habitude, alors je vais lire en avant une page de Ma Poésie Française, anthologie, non pas anthologie, mais florilège critique et passionné de notre poésie des origines à nos jours. Alors nous avons fini avec Dubellay, avec Ronsard, les deux poètes les plus connus de la fameuse Pléiade, et nous attaquons des gens beaucoup moins connus. Par exemple, Jacques Pelletier-Dumont, né en 1517 et mort en 1582. Il fut mathématicien, grammairien et médecin. Il se lia à l'école de Lyon et publia en 1555 l'art poétique et l'amour des amours. Sa recherche des contraintes et des rimes riches le rapproche des vieux rhétoriqueurs et lui vaudra l'hommage contemporain des oulipiens. Hélas, la plupart du temps, il arrive, comme tant d'autres, avec plus ou moins d'astuce et d'élégance, à ne dire absolument rien. Mais nous allons pourtant, nous citerons intégralement son justement célèbre poème intitulé « L'Alouette » et qui n'est pas sans savante et sonore beauté. Voilà donc l'Alouette. « Alors que la vermeille aurore le bord de notre ciel colore, l'Alouette, en ce même point, de sa gentille voix honore la faible lumière qui pointe. Tant plus ce blanc matin éclaire, plus d'elle la voix se fait claire, et semble bien qu'en s'efforçant, d'un bruit vif elle veut plaire au soleil qui se vient au sang. Elle, guidée de zéphyr, sublime en l'air, vire et revire, et déclic un joli cri qui rit, guérit et tire l'ire, c'est-à-dire qui éloigne la colère. Des esprits mieux que je n'écris, soit que Junon son air essuie, ou bien qu'elle le charge de pluie, en haut pourtant elle se tient, et de guingoter, c'est-à-dire de gazouiller, ne s'ennuie, fort quand le neigeux hiver vient. Même n'a point la gorge close pour avoir sa niche éclose, et en ses chants si fort se plaît, que vous diriez que l'autre chose, ces alouetteaux, elle ne paie, du verbe paître. En plein midi, parmi le vide, fait défaillir l'œil qui la guide, c'est-à-dire fait défaillir l'œil qui la suit, puis, tantôt, comme un peloton, subit en terre se dévide, et pour autant, plus l'on ne la voit. Eh bien, Alain Escada, bonjour. Vous êtes.
Bonjour Daniel Abrocorn.
Vous êtes à Bruxelles, je crois.
Je suis à Bruxelles aujourd'hui, mais je Très vous bien. Remercie pour cette charmante invitation à me permettre, d'une fois de plus, d'essayer de poser un regard éclairé sur l'affaire Epstein.
Voilà. Et d'ailleurs, vous êtes en passe de devenir le spécialiste de l'affaire Epstein, il semble. Parce que vous multipliez les conférences, les interventions, etc. C'est formidable. Comment vous est venu c'est pas votre fonds de commerce, comme on dit, d'habitude.
Disons qu'en tant que responsable de Civitas International, c'est vrai que ce n'est pas naturellement le sujet sur lequel j'étais amené à travailler, mais il m'a semblé, et ça s'est révélé vrai au bout de quelques recherches, que l'affaire Epstein pouvait être la clé de compréhension pour bien mesurer qui nous gouverne et comment nous sommes gouvernés.
Ouais.
C'est-à-dire voir comment à l'échelle planétaire, tout peut s'expliquer d'une certaine façon par l'étude de l'affaire Epstein, parce que trop souvent, les gens qui ne se sont pas vraiment intéressés au sujet peuvent songer qu'il s'agit d'une simple affaire de mœurs ou de balai rose ou
Oui.
d'abus de jeunes femmes,
Limité
mais
dans le temps et
c'est...
l'espace, limité dans le temps et
Oui,
l'espace, alors ce n'est pas du
voilà.
tout le cas. Ouais.
Et c'est loin d'être le cas. Bien sûr, il y a une partie de l'affaire Epstein qui est une affaire de mœurs, mais au-delà, c'est surtout une affaire de chantage à destination géopolitique. Et quand on mesure cela, c'est impressionnant de voir comme l'affaire Epstein est à multifacettes. Elle s'étend sur tous les continents. Elle touche aussi bien l'Europe que l'Amérique, que l'Afrique, avec aussi bien la partie subsaharienne que le Moyen-Orient. Elle touche l'Asie très largement. Elle est vraiment à dimension internationale. Elle affecte les têtes couronnées, les prix Nobel. Et le corps diplomatique, les scientifiques, les avocats, les architectes, les magistrats,
Oui, on
les
aurait
hommes
pu.
d'affaires, les banquiers, les journalistes.
Effectivement.
Donc, c'est impressionnant de constater le monde militaire, de constater en fait comment rien n'échappe en termes de domaine de société. Rien n'échappe à l'affaire Epstein. On y parle de clonage, on y parle de réduction de population, on y parle de crypto-monnaie, on y parle
De
de
guerre, ouais.
transformation de l'attitude des partis nationalistes, identitaires. On y parle de bioéthique, on y parle d'euthanasie, on y parle de bébés éprouvettes, on y parle de dîner à l'Élysée, on y parle de politique de répression concernant l'Iran, on y parle de culture, on y parle de visites privées au 10 Downing Street ou à Buckingham Palace. Vraiment, rien n'échappe. On y parle du Dalai Lama, de bouddhisme,
Ouais.
vraiment, c'est impressionnant.
En effet,
Et c'est
c'est
la raison pour
impressionnant.
laquelle je prépare un livre sur le
Ah,
sujet
voilà.
qui
Eh
doit
bien,
sortir en septembre
nous
et
attendons
qui
ça avec
donc ça,
impatience. Et
voilà,
je vous réinviterai à cette occasion, d'ailleurs.
avec grand plaisir.
Ouais. Et donc, alors, l'affaire Epstein, ça commence, ça se révèle quand, comment, ce type a été condamné une première fois, il est sorti de prison assez facilement, il a fait très peu de mois de prison et dans des conditions, disons, scandaleuses.
Absolument. Disons que le grand public découvre une première fois Epstein en 2008.
Huit, c'est
C'est
ça.
l'année de sa première
Ah.
condamnation. Il faut repréciser le contexte. Initialement, une maman découvre des sommes assez importantes de dollars dans les poches de sa fille qui a 13 ans.
Ah oui.
Et à partir de là, elle cherche à comprendre, elle interroge sa fille.
Ça,
Sa
c'est aux
fille lui explique.
États-Unis, c'est
C'est
où?
aux États-Unis.
D'accord.
La toute première découverte on va dire de prostitution pédophile, c'est
Ouais.
aux États-Unis.
Ouais.
Cette maman apprend que sa fille de 13 ans est fréquemment payée 200 à 300 dollars pour des massages faits chez Jeffrey Epstein.
Ouais.
Et
Oui.
donc, elle apprend en interrogeant sa fille, et puis les enquêteurs en interrogeant sa fille, que, eh bien, plusieurs jeunes filles, c'est se passe le mot que il y a un homme très riche qui paye pour
Des
des
massages, entre
massages
guillemets,
par
ouais.
des écolières. Ça va donner lieu à un procès, et donc c'est le procès de Jeffrey Epstein, qui est déjà très connu aux États-Unis. Il ne l'est pas encore vraiment par le grand public en Europe,
Ouais.
mais Jeffrey Epstein était très connu déjà aux États-Unis à partir des années 2000. On y reviendra, mais c'était, on va dire, c'était une ascension fulgurante dans le monde
De la banque,
des
ouais.
milliardaires. À partir des années 2000, il s'est imposé comme un conseiller financier de beaucoup de milliardaires. On expliquera, je reviendrai chronologiquement sur le phénomène, comment s'est-il imposé comme ce conseiller financier de milliardaires. Mais c'est quelque chose de très symptomatique. Il avait précisé à l'époque, dès les années 2000, qu'il ne s'occuperait de portefeuille qu'à partir du moment où la personne avait au moins 1 milliard de dollars en liquidité. Il
Ouais.
ne traitait pas les conseils financiers pour des personnes ayant moins d'1 milliard de liquidité. Ça vous place un peu
Oui, ça
le
place
champ d'action. Et
effectivement.
donc en 2008, il y a ce procès. Et ce procès, très curieusement,
Alors, c'est
pourrait-on
à New
dire,
York, ça, ou c'est
le
à...
procès est à New York, oui, parce
D'accord.
que à l'époque, sa résidence principale est à Manhattan. Et
D'accord.
donc, le procès va être mené par le procureur fédéral Alex Acosta. Et donc, le jugement va être étonnamment très clément. Donc, il va avoir une peine strictement symbolique avec un internement à domicile. C'est
Oui.
assez pratique.
Oui.
Donc,
C'est l'équivalent du bracelet chez nous, quoi.
c'est l'équivalent du bracelet, en sachant que toutes les propriétés d'Epstein sont vastes,
Oui.
luxueuses, et que donc être assigné à résidence dans une propriété luxueuse à Manhattan, il y a pire comme condamnation.
Effectivement.
La condamnation est assortie d'une inscription du nom d'Epstein au registre des pédocriminels,
Oui, tout de
mais
même. Ouais.
et d'une indemnisation des victimes identifiées. Mais ça ne va pas plus loin. Or, il est intéressant d'écouter les explications ultérieures du procureur fédéral Alex Acosta pour comprendre pourquoi la condamnation n'avait pas été plus lourde. Le procureur fédéral Alex Acosta a déclaré ultérieurement, on m'a dit qu'Epstein était un agent des services de renseignement et qu'il valait mieux ne pas s'en mêler. Voilà,
Bon.
ça permet de comprendre le fil conducteur de cette affaire. Ensuite, Epstein donc reprend ses affaires classiques, étend son réseau à des sympathies et des connexions dans le monde entier. Et l'on commence à nouveau à s'inquiéter dans les médias de qui est Epstein et de quels sont les dossiers pédocriminels qui sont connexes à partir des années 2015-2016. Mais c'est en 2019 qu'il va être arrêté et il est arrêté en juillet, si ma mémoire est bonne, et au mois d'août, il est retrouvé suicidé, entre guillemets,
Ouais.
dans sa cellule. Et donc, l'affaire Epstein prend à partir de ce moment-là une dimension nouvelle parce que elle est suivie d'un enjeu de campagne présidentielle. Donald Trump promet que s'il est élu à la présidence des États-Unis, il fera toute la lumière sur l'affaire Epstein. Il ouvrira le dossier. Et puis, la campagne est effectivement menée tambour battant avec ce sujet parmi d'autres, mais qui le rendent populaire, le présentent comme un chevalier blanc qui va faire la lumière sur quantité de dossiers dissimulés, cachés. Il est élu, et là, plus rien. Dans un premier temps, Donald Trump ne fait absolument rien pour rendre public le dossier Epstein. Mais le mouvement MAGA n'est pas du tout content que Donald Trump ne tienne pas sa parole. Et des parlementaires américains, républicains, vont commencer à faire du lobbying, et notamment un parlementaire du Kentucky, Thomas Massie, qui va avec à la fois d'autres députés républicains et des démocrates faire voter une loi obligeant à rendre public l'entièreté du dossier Epstein. À
Bravo.
partir de ce moment-là, Donald Trump est bien forcé d'avancer. Il nomme Pamela Bondi comme procureur chargé de l'enquête. Et dans un premier temps, Pamela Bondi fait des déclarations en conférence de presse pour dire qu'elle a pris connaissance de dossiers extrêmement volumineux, de milliers de vidéos montrant Epstein et ses malversations, entourées de personnalités et de clients. Qu'elle a à sa disposition une liste impressionnante de clients très importants et que donc elle s'attelle à poursuivre les coupables et préparer le fait de rendre public les pièces du dossier. Mais Trump ne l'entend pas de cette oreille. Et alors que Pamela Bondi a déclaré avoir autant de documents sous la main, lui, par contre, dans d'autres interventions publiques, déclare que le dossier est vide. Et
Ah bon.
aussitôt, Pamela Bondi revient sur ses paroles et dit, en vérité, le dossier est vide.
Ah.
Contradiction évidemment ridicule, flagrante. Et donc, qui crée un remous interne au sein du Parti républicain, du mouvement MAGA et au sein du Congrès des États-Unis.
Alors,
Et là,
excusez-moi,
Trump.
à ce moment-là, il n'y avait pas d'enquête. De la FBI, par exemple, où il n'y avait pas d'enquête officielle, ou très peu, ou quoi.
L'enquête avait existé
Avant, d'accord.
pour préparer l'arrestation d'Epstein,
Oui.
mais en fait, l'enquête semblait être arrêtée.
C'est
Plus
ça,
rien
d'accord.
ne suivait
D'accord.
l'annonce du décès d'Epstein dans sa cellule. Et donc, face à la pression au sein du Congrès et au sein du Parti républicain, finalement, contraint et forcé par le vote d'une loi sur le sujet, Trump donne le feu vert et le ministère de la Justice des États-Unis publie sur son site un premier lot de 3 millions et demi de documents, qui sont à ce moment-là des documents qu'on appelle caviardés, c'est-à-dire que dans un premier temps, vous voyez une multitude d'échanges de mails, de SMS entre Epstein et différentes personnalités, mais systématiquement, le nom des personnes avec lesquelles traite Epstein est rendu invisible, une tache
Caviardé,
noire. De la
caviardé.
même façon, vous avez quantité de photographies et des dizaines d'heures de vidéos qui sont proposées sur le site du ministère de la Justice à cette époque, mais là encore, les photos ne montrent finalement quasiment jamais les visages des personnes et encore moins les faits qui se dérouleraient, qui seraient des faits de mœurs, bien entendu. Donc, le Congrès remonte au créneau. Les députés, les parlementaires qui ont voulu que la vérité soit faite, que la transparence soit obtenue, montent au créneau. Et à ce moment-là, le ministère de la Justice remodifie les documents pour en rendre plus visible le nom des personnes qui échangeaient des messages avec Epstein, et on découvre d'un seul coup l'ampleur phénoménale du réseau d'Epstein à travers le monde. Là, il y a une poursuite au sein du Congrès des exigences, parce qu'on a bien conscience que ces 3,5 millions de documents publiés ne sont qu'une goutte d'eau, en vérité, parmi la multitude de pièces saisies dans les innombrables propriétés d'Epstein. Et donc, il y a un second lot de 3 millions de documents qui est publié, mais l'annonce de cette seconde publication de documents est assortie d'une discrète annonce d'un retrait de 65 000 documents préalablement publiés dans le premier lot. Alors, on retire 65 000 pièces.
Oui, d'accord.
Et donc, ensuite, on s'attend à ce que, enfin, Pamela Bondi puisse donc travailler à entamer des poursuites de gens cités dans le dossier. Mais Pamela Bondi se voit retirer l'affaire. Elle est démise de ses fonctions par Donald Trump, qui nomme un nouveau procureur qui lui s'empresse de dire que l'affaire est close et qu'il n'y aura plus aucun autre élément à publier, ni aucune poursuite.
Carrément.
Et depuis lors, eh bien, les remous ont suivi. Il y a des auditions régulières organisées par des membres du Congrès,
Oui, j'ai vu
dont
ça.
une toute récente audition de la procureure Pamela Bondi, qui était très significative, parce que le ministère de la Justice a obligé la présence d'un de ses hauts conseillers durant l'entretien de Pamela Bondi devant la commission des membres du Congrès. La commission des membres du Congrès n'a pas pu véritablement librement questionner Pamela Bondi. Contrairement aux auditions préalables, cette audition n'a pas été filmée. Pamela Bondi a simplement lu une déposition, et ensuite elle n'a quasiment répondu à aucune question, et précisément elle n'a absolument pas répondu aux questions des membres du Congrès sur les pressions qu'elle aurait pu avoir de la part de Donald Trump, ou sur la présence de Donald Trump dans les dossiers qu'elle avait pu consulter dans l'affaire Epstein. Et donc, la presse a ensuite simplement publié un petit résumé de cette audition de Pamela Bondi, mais il n'y a pas de publication de l'intégralité de la déposition de Pamela Bondi. Et ça vous donne une idée de la façon dont, aux États-Unis, malgré la publication de millions de documents, on n'est toujours pas dans une possibilité d'espérer des poursuites des criminels qui étaient des complices de Jeffrey Epstein. Et c'est en fait, c'est aux États-Unis, mais c'est bien sûr ailleurs dans le monde, c'est évidemment encore plus le cas en France, où depuis 2019, rien n'a plus bougé en ce qui concerne l'affaire Epstein. Il faut rappeler que Epstein avait une propriété, un appartement de 800 mètres carrés
À
avenue
Paris,
Foch.
ouais.
800 mètres carrés, c'est tout de même pas rien.
Ouais.
Et que donc, en septembre 2019, Les enquêteurs ont perquisitionné cet appartement de l'avenue Foch, ont emporté quantité de documents, mais que la justice française n'a jamais fait savoir par voie de presse ce qu'elle avait pu découvrir dans cet appartement de l'avenue Foch. Et il a fallu attendre 2026 pour qu'on apprenne qu'Epstein avait d'autres propriétés en France. Donc, l'affaire Epstein en France est encore plus muselée qu'elle ne l'est aux États-Unis. Et donc, quant à l'ensemble du monde, finalement, on observe que il y a eu, depuis la publication par le ministère de la Justice des États-Unis de 2 millions de documents, il y a eu des remous à travers le monde, quantité de démissions de la part de personnalités importantes, on pourra y revenir, quantité aussi de mises à la retraite anticipées, mais il n'y a quasiment aucune inculpation. Et les seules inculpations de par le monde qui existent sont des inculpations pour enrichissement illégal ou pour corruption aggravée, mais jamais pour crime sexuel. Donc ça vous permet déjà de mesurer comment, malgré l'ampleur de ce réseau, avec des connexions dans tous les domaines, eh bien, la chape de plomb est parfaitement maîtrisée. Rien, véritablement, ne permet d'avancer comme il se doit pour à la fois établir les responsabilités de personnalités importantes de par le monde et pour ensuite les traîner devant les tribunaux.
Alors, pourtant, j'ai cru comprendre que, par exemple, le Congrès aux États-Unis avait tout de même interrogé pas mal de victimes,
Alors, interroger,
officiellement,
oui.
interrogé
Oui,
et publiquement, hein, publiquement.
en effet, donc ça, c'est la partie intéressante. Le Congrès a mené, la commission du Congrès a mené une série d'auditions qui, dans un premier temps, étaient filmées. Et donc, on a pu suivre le détail de ces auditions. Alors, à la fois, des victimes ont été auditionnées, mais aussi le comptable d'Epstein, Richard Kahn, aussi des avocats d'Epstein et également des personnalités politiques, par exemple Bill Clinton ou son épouse Hillary Clinton, ont été auditionnées par le Congrès, ce qui a donné lieu d'ailleurs à des moments rocambolesques où lorsque on montre des photos du dossier Epstein à Bill Clinton, il y a un moment de flottement. Il ne dit plus rien. Il regarde les photos. Il a un sourire qui est frappant. Il a l'air de se
De
remémorer,
revivre.
d'agréables souvenirs. Et puis, il ensuite il nie tout. Il nie
Carrément.
toute responsabilité et toute connaissance de quoi que ce soit qui aurait été de nature illégale sous ses yeux lorsqu'il était avec Epstein, soit dans son avion, soit dans ses propriétés. Mais donc, malgré ces auditions, rien n'a pu en ce moment amener à des poursuites. Des milliardaires ont été également auditionné publiquement, par exemple le milliardaire Leslie Wexner, ainsi que le milliardaire Léon Black. Ce sont des milliardaires considérés comme ceux qui ont été les principaux à permettre l'enrichissement fulgurant d'Epstein au cours des années 2000. Lors d'une interview, donc non, lors d'une audition, pardon, du comptable Richard Kahn, le comptable d'Epstein, par les membres du Congrès, par la commission du Congrès, les membres du Congrès lui demandent d'identifier, de nommer ceux qui ont contribué à l'enrichissement d'Epstein, et il cite donc Richard Kahn, Richard Kahn cite Leslie Wexner, qui est en fait le milliardaire qui est notamment était à la tête du groupe de lingerie Victoria's Secret. Il cite le milliardaire Léon Black. Il cite le milliardaire Glenn Dubin. La famille Rothschild, pardon, la famille Rothschild dans son ensemble et l'ancien premier ministre israélien Ehud Barak.
Très bien. On va passer un petit bobino de publicité interne.
Les émissions de Radio Courtoisie arrivent chez vous. Les émissions de Radio Courtoisie viennent à vous, partout. Désormais, dans vos voitures, à vélo, en transport en commun, elles vous accompagnent partout, dans vos téléphones, dans vos poches, 24 heures sur 24. Radio Courtoisie avec vous, politique, société, religion, littérature, histoire, culture, 24 heures sur 24. Nos paroles s'envolent sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr. La liberté, ça n'a pas de prix et c'est gratuit.
Alors donc, tout de même, le Congrès a fait un petit effort. Ça n'a pas abouti à grand-chose. Mais enfin, en France, c'est carrément, c'est le rien du rien. Il n'y a pas, même pas un député qui a bougé pour demander une enquête, comme une enquête de l'Assemblée nationale, par exemple, ou du Sénat, enfin voilà. Qu'en
Alors
pensez-vous?
effectivement, en France, c'est effarant. Il y a eu une seule demande de créer une commission d'enquête sur l'affaire Epstein, et cette demande émane du groupe LFI.
Oui.
C'est quand même assez attristant
Oui.
de voir que même du côté du Rassemblement national, il
Effectivement.
n'y a eu aucun intérêt pour l'affaire Epstein, aucune demande de faire la lumière, la transparence sur ce que la justice a saisi dans l'appartement de l'avenue
Oui.
Foch
Alors,
à Lille.
est-ce à cause de la proximité nouvelle du Rassemblement national avec Israël, par exemple?
Alors,
On
en
se
tout
pose la
cas,
question.
on peut comprendre que le Rassemblement national n'ait peut-être pas envie de faire toute la lumière sur l'affaire Epstein. Quand on commence à consulter les dossiers mis en ligne par la justice américaine et que l'on s'aperçoit que, par exemple, Epstein avait organisé, orchestré la visite de Steve Bannon en Europe, sa tournée en 2017, parmi les partis populistes européens. Et que c'est donc sous la supervision de Jeffrey Epstein que Steve Bannon a rencontré Jordan Bardella, Marine Le Pen et a participé à des meetings du Rassemblement national. En fait, c'est l'un des aspects troublants politiques de l'affaire Epstein. C'est que les pièces mises à disposition permettent de comprendre que toute cette tournée de Steve Bannon, qui était censée donner un élan, coordonner les partis identitaires, populistes, de droite nationale, en vue de conquérir le Parlement européen et de renverser Ursula von der Leyen, n'était en fait qu'une manœuvre sous la direction de Jeffrey Epstein pour obtenir que tous ces partis populistes, identitaires, de droite nationale donnent leur engagement de désormais suivre une ligne sioniste. Et on a vu qu'effectivement, à chaque fois que Bannon obtenait de la part des dirigeants de ces partis un engagement ferme en faveur du sionisme et du soutien à Israël, Bannon écrivait en direct à Epstein, ça y est, c'est fait, c'est acquis, ils sont de notre côté.
Ouais, c'était effarant, effarant.
Et on a vu effectivement ensuite la transformation des partis politiques, la ligne de plus en plus affirmée d'un soutien à Israël et à Benjamin Netanyahou, avec la participation du Rassemblement national, Bardella et Marine Le Pen en tête à la marche contre l'antisémitisme à Paris, sous la protection de la Ligue de défense juive. Je rappelle que c'est la seule manifestation de rue à laquelle a participé officiellement le Rassemblement national sur toute la dernière décennie. Je rappelle qu'ensuite, on a vu Meir Habib devenir un proche de Jordan Bardella,
Oui,
lui faire la bise,
le baiser de Judas,
l'accompagner
comme on dit.
en Israël. Hey,
Oui.
on a vu ensuite Jordan Bardella être invité à prendre la parole en Israël à la Knesset devant de nombreux membres du gouvernement israélien et Benjamin Netanyahou lui-même. Donc voilà, il y a eu effectivement, à la suite de la mission de Bannon en Europe, il y a eu une transformation complète de l'attitude géopolitique de beaucoup de partis populistes, identitaires, du camp
Ouais.
national en Europe.
Et le
Puis
vote, par exemple, le
il faut aussi
vote.
rappeler que du côté de Jordan Bardella, il y a peu annoncé son idylle avec une princesse Bourbon des Deux Siciles, et que dans le dossier Epstein mis en ligne par la justice américaine, on peut découvrir que les parents de cette princesse, eux-mêmes princes et princesses Bourbon des Deux Siciles, avaient organisé en 2012 en France un dîner en l'honneur de Woody Allen avec comme participants Jack Lang et Jeffrey Epstein.
Ouais.
Donc voilà,
Fameux
on
trio,
comprend
ouais.
évidemment que la direction du Rassemblement national n'a peut-être pas envie que tout cela soit remué dans le cadre d'une commission d'enquête sur les ramifications de l'affaire Epstein en France.
Ouais. Non, c'était effarant.
Quant à la
C'est
France insoumise qui est le seul parti à avoir demandé une commission d'enquête sur l'affaire Epstein, il faut néanmoins faire remarquer que dans le dossier Epstein apparaît abondamment le nom de Noam Chomsky et
Ouais,
que
c'est qui?
Noam Chomsky a notamment été membre du comité de soutien international de la candidature de Mélenchon à la présidentielle.
Ouais. Donc, il nous reste pas grand-chose alors.
Voilà, il n'y a pas beaucoup
Et...
de parlementaires libres amenés à réclamer avec un peu d'insistance la vérité sur l'affaire Epstein, et c'est ça qui est complètement regrettable. Voilà, aux États-Unis, il y a quand même des membres du Congrès qui ont joué un rôle essentiel,
Oui.
aussi bien d'ailleurs des républicains que des démocrates. Et malheureusement, en France, eh bien, c'est un sujet qui semble clos. On n'a pas d'insistance de la part de parlementaires d'aucun parti, à part donc cette demande
Ouais.
de la France insoumise. Mais il n'y a pas d'insistance même de la part de la France insoumise qui a demandé cette commission. Il n'y a pas de retour régulier sur le sujet.
Ouais.
Et donc, on n'a pas l'équivalent d'un Thomas Massie en France pour être le porte-drapeau au sein de l'Assemblée nationale d'exigence de transparence
Une
sur ce
enquête.
dossier.
Ouais. Et justement, par exemple, justement, vous parliez des propriétés de Epstein en France. On ne connaît que celle de l'avenue Foch pour l'instant. Alors, il semblerait qu'il ait eu de nombreuses propriétés, justement par l'intermédiaire de Maxwell, de sa compagne et complice. qui elle est française d'ailleurs, enfin parmi d'autres passeports, elle est passeport français.
Parmi une multitude
voilà.
De passeports, oui.
Voilà.
Effectivement, donc on a appris seulement en 2026, par la voix de quelques entrefilets dans la presse, qu'Epstein avait d'autres propriétés en France. Et notamment dans le sud de la France. Mais donc, on ne sait pas ce qu'il est advenu de ses propriétés. Rien n'est rendu public sur les perquisitions éventuelles ou avérées qui ont été faites dans ces propriétés-là. C'est l'impasse complète. Il n'y a pas de communication de la part du ministère de la Justice en France sur l'affaire Epstein. Aucune communication. Or, on sait que sont passés dans l'appartement de l'avenue Foch à Paris quantité de personnalités internationales et nationales. Des personnalités politiques comme Jack Lang, comme sa fille Caroline Lang, mais aussi des gens du monde du showbiz, du monde de la télévision, du monde des médias, du monde des affaires français. Voilà, on sait que aussi l'ancien premier ministre israélien Ehud Barak, lorsqu'il venait en France, séjournait dans l'appartement d'Epstein avenue Foch. On sait que des officiers du renseignement israélien importants, lorsqu'ils étaient de passage en France, logeaient également dans cet appartement. On sait que toutes sortes de personnalités, anciens ministres de différents pays impliqués dans l'affaire Epstein, logeaient dans cet appartement lorsqu'ils séjournaient en France. Donc voilà, c'est récurrent. On sait aussi que Epstein a bénéficié d'une visite privée du château de Versailles
avec Jacques Lang,
la direction de l'actuel ministre de la Culture.
Hein. Oui.
Rien que cela. Comment est-il possible qu'il n'y ait pas un parlementaire français qui interpelle l'actuel ministre de la Culture sur le fait que le dossier publié par la justice américaine montre une photo de l'actuel ministre de la Culture avec Jeffrey Epstein, Caroline Lang, Woody Allen au château de Versailles pour cette visite privée.
Ouais.
Et comment est-il possible que la presse du système, la presse dominante, se contente d'une réponse évasive de l'actuel ministre de la Culture disant qu'elle n'a aucun souvenir de cette visite privée?
Ouais.
En tant qu'actuel ministre de la Culture, je suppose qu'elle sait au moins qui est Woody Allen.
Oui,
et que
j'imagine.
On ne rencontre pas tous les jours Woody Allen. Donc, il me semble qu'il serait naturel, à moins qu'elle ait une Alzheimer ou une autre maladie affectant la mémoire, qu'il serait quand même surprenant qu'elle n'ait aucun souvenir d'avoir fait visiter le château de Versailles, dont elle avait à l'époque l'administration, avec Woody Allen et Jeffrey Epstein et Caroline Lang.
Oui, ah, c'est une mémoire intermittente, hein, on appelle ça.
Exactement. Tout comme Jack Lang et Caroline Lang ont
et sélective, intermittente
des
et
mémoires
sélective.
Sélectives. Il faut rappeler que Caroline Lang, la fille de Jack Lang, et faisait partie des héritiers testamentaires de Jeffrey Epstein.
Ouais, ouais.
Imagine quand même
pour
que
quelques
si
millions,
Jeffrey
crois,
Epstein ouais. lui a l'avait placé sur son testament pour la petite somme de 2 millions de dollars, ce n'est pas simplement
ouais.
parce que elle lui avait serré les mains, la main à Paris, hein. Bon,
ouais.
voilà.
Ouais, ouais.
il faut avoir en tête que dans le dossier publié par la justice américaine, on peut par exemple trouver un courriel de Caroline Lang adressé à Jeffrey Epstein, lui proposant de venir à un concert donné à l'Institut du monde arabe, présidé à l'époque par
Jack Lang.
Caroline Lang signale à Epstein l'opportunité d'y rencontrer deux personnalités, à savoir celui qui donne le concert à l'époque, concert de piano par Jacques Attali. Donc Caroline Lang lui dit, c'est l'occasion de rencontrer à la fois Jacques Attali et Dominique Strauss-Kahn.
Ouais.
Voilà. Donc en fait, les simples pièces apparentes dans le dossier publié par la justice américaine montrent déjà une multitude d'implication de personnalités politiques françaises dans l'affaire Epstein. Et donc, c'est absolument incroyable que ni les médias dominants, ni la justice française n'avancent dans ce dossier. Je rappelle que dans les pièces mises en ligne par la justice américaine, on trouve les échanges de courriels entre Epstein et l'Élysée. Tant sous la présidence de Nicolas Sarkozy que sous la présidence d'Emmanuel Macron.
Ouais.
On trouve les liens entre Epstein et différents membres du corps diplomatique français. On trouve les liens entre Epstein et Bruno Le Maire. Je rappelle que Bruno Le Maire a été reçu dans l'appartement d'Epstein à New York.
Ouais.
Je rappelle que Olivier Collomb, qui a été à la fois membre du corps diplomatique français, conseiller international de Nicolas Sarkozy, ensuite membre du conseil d'administration du groupe Edmond de Rothschild, et il n'y a pas si longtemps conseiller Afrique de Marine Le Pen, a échangé des mails avec Epstein pour lui proposer une rencontre avec Bruno Le Maire dans l'hypothèse où Bruno Le Maire se présenterait à la présidentielle, et afin de savoir si Epstein accepterait de soutenir financièrement une telle candidature de Bruno Le Maire. Je rappelle qu'il y a dans les pièces mises en ligne par la justice américaine un échange où Epstein annonce qu'il est à l'Élysée avec le ministre Bruno Le Maire.
Oui, ça fait beaucoup. Alors que ce n'est que la pointe de l'iceberg, en plus, probablement.
Tout à fait. D'ailleurs, je pourrais parler de cela pendant un long moment, mais voilà, vous avez des échanges qui montrent que la cellule diplomatique de l'Élysée sous la présidence de Nicolas Sarkozy avait donc reçu Epstein à l'Élysée pour traiter de ce que la présidence française prendrait comme position tant à des réunions du G20 qu'à des réunions au sein du Forum économique mondial. Je rappelle qu'ensuite, sous Emmanuel Macron, il y a des échanges entre une cellule de l'Élysée et Epstein pour traiter d'autres demandes de conseil. Je rappelle qu'il y a un moment, un échange entre Steve Bannon et Epstein, Bannon demandant par texto à Epstein s'il peut l'appeler, et Epstein répondant à Bannon, « Appelle-moi plus tard, je suis en ce moment à l'Élysée. »
Oui, d'accord.
À l'Élysée avec Emmanuel Macron. Et puis ensuite, Epstein renvoie un message à Bannon pour lui dire « Là, je suis en ce moment avec les membres du gouvernement français aux pyramides », parce que c'était la cérémonie pour le 30e anniversaire de la pyramide du Louvre.
Oui, oui. Eh oui, Ça fait beaucoup, c'est lourd.
Ça fait beaucoup, ça fait beaucoup.
Et ce n'est que ce qu'on est sûr, ce dont on est sûr et qu'on a constaté. Et ce n'est que toute petite partie des
Ce
révélations
n'est que la
futures. Voilà.
partie
Un fil.
émergée grâce au ministère de la Justice américaine,
Du gros
donc
iceberg.
sans rien savoir
Voilà.
de ce que la justice française a saisi dans l'appartement de l'avenue Foch, ou peut-être également dans d'autres propriétés d'Epstein en
Ouais.
France.
D'ailleurs, il paraît qu'il y a eu un préventivement à la police, il y a eu un nettoyage, il y a eu des gens plus ou moins complices qui sont passés dans ces lieux et qui ont procédé
Absolument.
à un
Donc, en fait, il
nettoyage.
faut
Voilà.
savoir que à l'annonce du décès de Jeffrey Epstein, un trust qu'il avait mis préalablement en place
Oui.
a immédiatement commandé le nettoyage de
Voilà.
toutes les propriétés d'Epstein, aussi bien aux États-Unis,
Ah
sur
oui,
son île privée ou
mondialement
en
d'ailleurs, et en
France.
France,
Donc,
c'est
au
dingue.
mois d'août, directement après l'annonce
Bon.
du décès d'Epstein, la propriété a été visitée
Oui, c'est
avant
ça.
la police.
Donc c'est encore pire
Oui, bien
que
sûr, bien sûr.
L'iceberg est encore plus caché qu'on le croit, et évidemment, c'est un iceberg qui n'est pas en glace, hein, et absolument pas transparent. C'est plutôt un
Ah,
iceberg en
complètement.
charbon. C'est un iceberg.
Complètement.
Voilà.
Il faut avoir en tête les implications sont de longue durée et vraiment toutes les personnalités impliquées dans l'affaire Epstein ont été protégées en France. Il
Ouais.
faut avoir en tête que en France, vous avez trois inculpations à peine. Non, que dis-je? Non, pas trois inculpations. Vous avez trois enquêtes en cours.
Ouais.
Trois enquêtes. L'une vise l'ancien diplomate français Fabrice Edan et les deux autres visent Jack Lang et Caroline Lang. Ce sont des enquêtes, rien de
Ouais,
plus,
rien de
pas
plus.
d'inculpation.
Pas
Et dans
d'inculpation.
le cadre de Jack Lang et de Caroline Lang, ce sont des enquêtes pour suspicion de corruption et d'enrichissement illégal.
Oui.
Donc, oui, on est vraiment dans un dossier
Oui,
très
un
aigu.
dossier balai rose, quoi.
Alors que
Ouais.
dans le cadre de Fabrice Edan, de nouveau, c'est un ancien diplomate français. Il a été notamment en poste à l'ONU et les pièces mises en ligne par la justice américaine révèlent que ce diplomate français, au moment où il était à l'ONU, représentant français à l'ONU, a été identifié comme utilisant les ordinateurs sur place pour consulter des sites pédopornographiques.
D'accord.
Cela a valu un signalement au secrétaire général de l'ONU et un signalement au Quai d'Orsay. Et dans un
Ouais.
premier temps, il n'y a pas eu de réaction. C'est le FBI s'est ensuite saisi de l'affaire et qui a contacté le Quai d'Orsay à nouveau, et le Quai d'Orsay a rappelé à ce moment-là son diplomate à Paris.
Très bien.
Mais il ne l'a pas sanctionné, il
Ouais.
ne l'a pas évincé,
Non,
il l'a simplement déplacé.
voilà, et il continue sa petite carrière, comme on
Eh
dit. Eh
oui.
bien, écoutez, l'émission est pas loin de se terminer, malheureusement. J'ai deux annonces à faire. D'abord, le marché de la poésie, qui se tient à Place Saint-Sulpice, est en fonction en ce moment, fonctionne, et donc jusqu'à dimanche inclus. Et puis, j'ai une triste nouvelle que j'ai appris hier, c'est la mort de Christine Cotton, COTTON, qui est biostatisticienne et lanceur d'alerte, et que j'avais reçu en novembre 2023, qui malheureusement s'est donné la mort au début de ce mois. Et c'est une lanceuse d'alerte qui a pris beaucoup de risques et qui était très intéressante. Donc je l'ai reçue en novembre 23. J'espère qu'on va rediffuser bientôt cette émission en hommage à Christine Cotton. Je rappelle qu'elle avait publié Tous vaccinés, tous protégés, avec un point d'interrogation, précisons-le, paru chez Guy Trédaniel. Hommage à elle, donc, et que Dieu l'accueille. Voilà. Eh bien, je pense qu'on a encore une minute ou deux. Oui, deux minutes. Vous aurez le mot de la fin, donc voilà.
surtout, j'insiste que le public qui nous écoute ne considère pas qu'il faut se désintéresser de l'affaire Epstein. Au contraire,
ouais.
Je pense qu'il est absolument impérieux qu'un grand nombre de Français continuent à s'intéresser au sujet et réclament justice. Vraiment, il faut réclamer justice. Si nous considérons que la page est tournée, nous allons passer à côté d'une opportunité exceptionnelle
de faire un nettoyage,
de démonter le système mondialiste.
Voilà, et de faire un nettoyage général, ce qui serait très très bénéfique et souhaitable. C'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous dis grand merci, Alain Scada. En attendant la parution de votre livre, c'est paru chez qui? Vous avez l'éditeur, non? Pas encore?
Alors, ça paraîtra chez Book Edition. Donc, voilà, désormais...
C'est un éditeur belge?
Non, c'est un éditeur français qui s'appelle The Book Edition. En fait, c'est qui permet en fait aux auteurs de s'éditer assez facilement.
Ah, ben comme ça, vous n'aurez pas de censure. Là.
Voilà, ouais. Exactement.
Très bien. Et ben, il me reste à vous remercier grandement. Et puis,
c'est
la prochaine.
C'est moi qui vous remercie.
Je vous en prie.
Il n'est pas si facile d'avoir accès à des médias, fussent-ils de notre camp,
effectivement,
pour parler librement de cette affaire.
Et de tous ces aspects multiples.
Oui, oui, absolument.
Bonne journée, à très bientôt.
À vous aussi.
Merci, chers auditeurs, et à très bientôt.
Entendre Anthologie de la création dirigée par Daniel Abrecorn, diffusée en direct sur Radio Courtoisie jeudi 4 juin 2026 de 10h à 11h et réalisée par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.